à Rencontre Spirituelle aujourd'hui. Je compte vous parler tout pendant une heure d'une petite fille née à Sardes, c'est-à-dire en Sardaigne, une Sarde. La Sardaigne, c'est cette grande île qui appartient, n'est-ce pas, à l'Italie. Elle est née en 1914. Elle est morte le 23 avril 1939. Et c'est une cistercienne, c'est-à-dire une moniale, comme les trappistes, une trappistine, quoi. Et c'est la bienheureuse Marie-Gabrielle Sagadou. Elle est déjà béatifiée. Elle a été béatifiée en 1983 dans la basilique Saint-Paul à Rome. Et sa fête, c'est bien aujourd'hui, elle est morte à 25 ans. C'est une sorte de Thérèse de l'Enfant Jésus, une Thérèse de Lisieux, mais trappistine, italienne, ou sarde si l'on préfère, puisqu'elle est originaire de Sardaigne, et elle se nommait Maria Sagadou. Sagadou, il faudrait bien l'appeler S-A-G-H-E-D-D-U. S-A-G-H-E-D-D-U. Sagadou. D'ailleurs, elle avait un surnom, on l'appelait Maou. M-A-O-U, c'est sympathique. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Cette bienheureuse est née le 17 mars 1914, donc à Dorgali, dans la province de Nuoro, sur la côte orientale de la Sardaigne. Son père, Marc-Antoine, Marco Antonio Sagadou, était tout simplement un pasteur de troupeaux, comme les deux frères qu'elle avait d'ailleurs. Pour le compte d'un riche propriétaire de l'île. Alors, les années passent vite. À l'âge de l'adolescence, elle recherche sa personnalité. Pour ses compagnes, c'est une fille comme les autres. Maria leur paraissait sérieuse et intelligente. Elle plaisantait, d'ailleurs, elle riait comme une petite folle. Hein? Mais sans mauvaise intention, une petite excitée, quoi. Ce qui la distinguait particulièrement, en tout cas, c'était son goût pour l'étude, oui, et son application en classe. Elle fait sa première communion à 10 ans, en 1924, précédée, semble-t-il, de sa première confession. Ces grands événements spirituels ne l'ont pas marquée particulièrement. Non, elle ne s'est distinguée en rien de ses compagnes. Elle manifeste au contraire, à partir de cette époque, quoi, un peu de négligence même vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis du Seigneur, comme on dit. Et elle garde l'essentiel, quoi. La messe dominicale, la prière en famille. Pour le reste, l'évêque du dimanche, le salut du Saint-Sacrement, le rosaire, le mois de Marie, bon, oui. Mais pas vraiment, elle s'en désintéresse progressivement. Ça disparaît de sa vie. Sa grande passion était donc la lecture. Elle lisait tout ce qu'elle trouvait. Les livres de classe, évidemment. Les livres d'histoire, de science, les romans. Son cousin, Antonio, qui était membre de la jeunesse catholique, il passait tous les livres de la bibliothèque du cercle. Et quand elle avait commencé un livre, bien, elle voulait absolument le terminer, ce qui est très bon signe. Et certains jours de l'année 1932, la présidente de l'Action catholique féminine de la ville a fait venir à elle Maria Sagadou, qui, avec le sourire, lui a demandé de l'inscrire dans l'association. Ce fut une joyeuse surprise pour la présidente, parce que jusque-là, elle avait toujours essuyé des refus de la part de cette jeune fille. Et cette démarche était toute spontanée de la part de celle qu'on appelait Maou. M-A-O-U, simplement Maou. Et c'était pas la conséquence d'un événement extérieur ou quoi que ce soit. Non, il s'agissait, et c'est toujours ce qui se déroule chez elle, une profonde évolution spirituelle qui avait été amorcée, qui allait se développer au cours des années suivantes, vous allez voir, c'est extraordinaire. Maou, si indépendante jusque-là, et si avide de s'imposer, est devenue docile. Elle aime à s'effacer. Elle s'ouvre aux autres, elle mûrit, quoi. Et ses bonnes actions, ses prières, la pratique des vertus de Maria Sagadou n'ont été remarquées d'ailleurs qu'après sa mort. Hein. Ça n'a pas été rien d'extraordinaire, sa vie. Mais ça demeure merveilleux et extraordinaire quand même, quand on le sait. À Dorgali, où elle est née, donc en Sardaigne, beaucoup la regardaient comme une jeune fille insignifiante même. Tant son existence était simple, puis bien ordinaire. Elle décide d'entrer dans le monastère de Grotta Ferrata chez les Trappistines près de Rome. Elle prend conseil auprès de du prêtre de la région. Et ça va. L'entrée en clôture, donc, est prévue pour le samedi 6 octobre. Et auparavant, bien, un choix doit être fait, au moins provisoirement. Hein. Est-ce qu'elle va être choriste ou bien converse? Parce qu'elle n'est pas tellement instruite. Alors, comme consécration à Dieu, il n'y a pas de différence. Toutes sont démoniales, faisant les mêmes vœux dans un monastère. Hein. Et dans le concret, ben, il y a pour les choristes l'obligation du cœur, c'est-à-dire de chanter au cœur l'office, la nuit, le jour. Ce qui entraîne bien des exigences. Maria Sagadou n'avait fait que des études élémentaires, et depuis elle n'envisageait que la vie des sœurs converses, les sœurs servantes, quoi. D'autant qu'elle était totalement ignorante de ce qui regardait le chant et la musique, et elle faussait, en plus. La mère abbesse a jugé les choses autrement, elle a décidé que la postulante devait travailler sa voix, étudier pour acquérir les connaissances qui lui manquaient. Et en commençant parmi les choristes, elle gardait la liberté de passer aux converses, un bonjour, au moment de la prise d'habit, si elle trouvait ça trop lourd d'être choriste. Dans un monastère comme ça, le postulat est de 6 mois. On postule. Il représente le quart du temps de l'approbation. Ça prend à peu près ça, hein, pendant 2 ans à peu près, pour être admis à faire les premiers vœux. La prise d'habit est retardée pour laisser à celles qui désirent devenir démoniales, des sœurs, une plus grande liberté de se retirer, hein, si ce n'est pas leur vocation. Les postulantes, les novices ont les mêmes occupations. Leurs journées sont remplies tout d'abord par la liturgie, l'office au cœur, le chant des psaumes, qui 7 fois le jour les appellent à l'église. Le centre de leur prière, c'est la célébration de la messe, la célébration eucharistique. Et depuis, bien, il y a les prières privées, la recherche du Seigneur dans une oraison silencieuse, la lecture priante, l'étude, les répétitions au noviciat aussi, pour apprendre toutes sortes de choses, surtout le chant. Le travail manuel, varié, et ça, il y en a beaucoup de travail manuel. Puis tous les divers exercices de communauté, les réunions, les conférences. La journée passe avec une étonnante rapidité. J'en sais quelque chose, j'étais moine 2 ans. Ça va vite une journée de moine ou de moniale. Et pour ça, Maria Gabriella n'a pas redouté les coups de froid, les gelées nocturnes. Parce que son amour ardent du Christ, son grand attachement à sa vocation et sa volonté tenace la protège. Et puis, son sourire, qui est vite retrouvé après une petite difficulté, ne s'éteint jamais. Et puis, ça va être la marque de sa spiritualité, la spiritualité d'un certain sourire. Comme dirait un titre de roman, hein, un certain sourire. Son testament spirituel, d'ailleurs, se résume dans cette phrase, et c'est ça qu'elle nous transmet, « Oh, qu'il est bon, le Seigneur ». Tout simplement. Oh, qu'il est bon, le Seigneur. Dans un noviciat, les jeunes, nombreux, les rires, les fous rires, se répandent facilement. C'est une marque de santé spirituelle. C'est le bienheureux Jourdain de Saxe, le fameux maître général des Dominicains, n'est-ce pas, il y a bien des siècles, qui disait à des novices trop sérieux, « Quand les novices rient, le diable pleure. » Bien, oui. Le diable pleure quand les novices rient. Dans une lettre au prêtre qui l'avait aidé dans sa ville natale, Don Meloni, on dit Don D-O-N, quand on parle d'un prêtre italien, et non pas D-O-M, mais bien D-O-N. Alors, sœur Gabriella, dans cette lettre, fait allusion à des difficultés qu'elle met sur le compte de son manque d'esprit religieux. Ces difficultés, ben, il était facile de les prévoir, hein, car Maria Sagadou avait une forte personnalité qui s'imposait aux autres. Faisait facilement prévaloir ses propres idées. Elle aimait ça, avoir raison. Et c'est pas nécessairement un défaut, c'est peut-être une qualité quand c'est dominé. Et c'est ce qui va lui arriver. Les témoignages des religieuses abondent, d'ailleurs, elle avait un caractère irascible, des fois dominateur, une volonté tenace et énergique, un esprit critique fort développé. Tout ça, c'est un beau terreau, là, mais il va falloir le transformer. L'impatience était son défaut dominant. Elle avait comme une fierté instinctive. Une de ses compagnes a dit, « C'était pas de la pâte à brioche. » Non. Elle avait des petits défauts. Et en contrepartie, mais son humilité la faisait facilement reconnaître ses torts. Et son bon cœur savait vite tout réparer. D'ailleurs, il était visible qu'elle travaillait énergiquement à se corriger de ses sauts d'humeur. En quelques mois, elle est parvenue à une parfaite possession d'elle-même. Cette lutte contre ses défauts, son souci constant de la perfection en tout, joint aux préoccupations pour le chant et la musique avec lesquelles elle avait de la difficulté, mais ça a donné, pour un temps, à Sœur Gabriella une attitude extérieure tendue. Ça contrastait avec la joie qui inondait son cœur, parce qu'on la reconnaissait quand même pour une sœur souriante. Elle était toute jeune, hein? Une simple remarque avait suffi pour que Sœur Gabriella modifie son comportement extérieur, d'ailleurs. Cette sérénité se traduisait par un délicieux sourire, j'avoue, qui sera son attitude habituelle, jusqu'à sa mort. Un sourire, pas un sourire stéréotypé, là, mais un sourire vivant. Vous savez, quand on voit des gens comme ça, on est tout de suite saisi, hein? Mais quand elle avait une contrariété, son sourire disparaissait, mais il renaissait très, très vite. Alors, on voyait qu'elle avait un bon caractère quand même. Alors, on voyait Sœur Gabriella en lutte contre elle-même, là. Elle devenait blême, faisait un effort pour retrouver sa paix. Quelquefois, elle s'éloignait un instant pour revenir avec le sourire. Elle était toujours la première à reconnaître ses torts. À la moindre opposition, avec une de ses sœurs, elle s'est jetée à genoux en faisant mea culpa. Vous savez ce que ça veut dire, ça, faire mea culpa? Bien, oui. Se jeter à genoux devant la sœur. Et l'autre sœur se jette à genoux et s'embrasse. C'est là que ça se termine, les disputes dans les monastères. Je m'en souviens, c'était comme ça à Saint-Benoît-du-Lac. En 44, 45, 46, bien, oui. Elle disait, d'ailleurs, maintenant je comprends bien ce que veut dire... Que veut dire Dieu? Quand on dit Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Parce que je l'expérimentais à moi-même. Lui, il a fait pour moi comme pour l'enfant prodigue. C'est le grand moine Don Chautard qui expliquait ainsi l'apostolat des contemplatifs. Il disait, le Christ est l'unique sauveur, l'unique missionnaire. Plus nous sommes au Christ, plus nous, contemplatifs et contemplatives, nous sommes sauveurs et missionnaires avec lui et par lui, unissant nos prières à celles du Christ, nos souffrances aux siennes, notre amour à son amour, eh bien nous attirons sur le monde grâce, force, lumière et amour. En somme, quoi la prière, le dévouement, la souffrance et surtout la charité, offerts pour la réconciliation des chrétiens, ont une grande valeur auprès de Dieu. Jésus veut l'union de ses membres chrétiens entre eux et avec lui pour que le monde croie qu'il est l'envoyé du Père. Le 17 janvier 1937, c'était la première fois que l'abbesse du monastère Mère Pia lisait au chapitre un message de l'abbé Couturier pour l'octave de prière. Il était question d'immenses forces d'intercession, indépendantes entre elles, qui surgissait de toutes les confessions chrétiennes avec une ampleur croissante et convergeait vers la déplorable aventure de la dissidence entre chrétiens, en même temps vers un ardent espoir de l'unité telle que le Christ le désire. Ce message de l'abbé Couturier, qui est un des plus grands apôtres du début du siècle pour l'unité de tous les chrétiens, est un message admirable. Hein? Alors le message faisait mention aussi d'humble dévouement et d'oblation volontaire et de généreux sacrifices pour cette grande cause. Alors, après la réunion du chapitre, une vieille religieuse, sœur Marie Immaculée Scalvini, est venue trouver la mère abbesse. Son regard est étincelant. Sa voix est pleine de chaleur et d'émotion, puis elle dit, « Ce que vous avez dit au chapitre est pour moi. Si vous le voulez, j'offre au Seigneur le peu de vie qui me reste. » Alors, l'abbesse, mère Pia, répond simplement, pas si vous le voulez. Elle n'ose pas trop rien dire. Alors on parle plus de rien. Mais cette religieuse était la doyenne de la communauté. Elle était entrée au monastère quand la communauté se trouvait encore à San Vito, près de Turin. Elle avait été maîtresse des novices. Elle avait été célériaire, c'est-à-dire économe, et prieure. Elle terminait son pèlerinage sur cette terre, au vestiaire, où elle rapiéçait, toujours en souriant, les vêtements de ses sœurs. Et un mois plus tard, bien le 20 février, sœur Marie Immaculée assiste à la lecture avant qu'on plie le dernier office du jour, c'est l'office du soir, il se lève un peu dans la noirceur, une petite lampe pour faire la lecture. Et puis, on lit un livre fort intéressant sur la passion. Et au bout d'un moment, la vieille sœur tend son bras gauche. Elle le sent glisser le long de son corps. Elle tente de le retenir et regarde en souriant la mère abbesse qui comprend de suite qu'il s'agit d'une congestion cérébrale. Alors la mère abbesse, mère Pia, congédie la communauté et s'occupe des premiers soins à donner à la malade. Et puis on la fait transporter à l'infirmerie, où le père Aumônier lui donne les sacrements des malades. 5 jours plus tard, le 25 février, sœur Marie Immaculée allait rejoindre son même Seigneur en offrant tout pour l'unité des chrétiens. La mère abbesse a fait son éloge devant la communauté. Elle a fait allusion à l'offrande qu'elle avait faite pour l'unité. Sœur Gabriella, toute jeune, ne fait aucune allusion à cette offrande et à cette mort. Elle a noté pour chaque jour les intentions indiquées pour l'octave de prière, puis elle a copié. On sait qu'à l'occasion, le texte italien de la prière que le pape Benoît XV, voyez-vous, Benoît XV, il a régné au début du siècle, avait composé en grec pour l'union avec les églises d'Orient, c'est-à-dire les églises orthodoxes. Le pape écrivait cette prière magnifique que sœur Gabriella fait sienne. « Christ, ô Christ, toi qui unis les différentes nations dans la confession de ton nom, nous te supplions pour les peuples chrétiens de l'Orient. » Cette prière est très belle et contient en particulier ce beau passage qui devait faire vibrer le cœur de sœur Gabriella. « Préserve-nous, écrit le pape, préserve-nous de toute faute qui pourrait les éloigner de nous. » Que l'esprit concorde de charité, signe de ta présence au milieu de nous, hâte le jour où nous pourrons prier ensemble, afin que tout peuple et toute langue te reconnaisse et te glorifie, Jésus le Christ notre Seigneur. Alors à ce moment, le carême est déjà commencé, Pâques de bonheur cette année-là, le 28 mars. Les dispositions intimes de sœur Gabriella nous sont connues. Par la lettre qu'elle écrivait à sa mère, le jour de Pâques, elle se résume dans cette phrase. Mon unique désir, oui, mon unique désir est d'aimer toujours plus mon Dieu et mon époux, de me rendre toujours plus digne de lui et de devenir une sainte. La résurrection du Christ, c'est un appel à la sainteté. La sainteté n'est pas un luxe pour les privilégiés. C'est le devoir et l'intérêt de tout chrétien parce que c'est la volonté de Dieu. Elle l'explique d'ailleurs dans une lettre à ses parents. Ma mère, et vous tous de ma famille, je vous invite en ce jour à vous unir à moi, dans une ferme détermination de vouloir ressusciter avec Jésus, c'est-à-dire sortir de votre torpeur pour une vie encore plus sainte selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions sans tâche, par l'accomplissement de nos devoirs, par la parfaite observance de ses saints commandements, et pour moi, celle-ci de notre règle. Implorons Jésus pour qu'il nous vienne en aide dans cette difficile entreprise de notre sanctification. Et lui, sans aucun doute, ne manquera pas de nous secourir. Je vous rappelle que les religieux, les religieuses, n'ont pas la prétention de vouloir arriver à une sainteté plus grande que la nôtre, simple fidèle. Car le commandement de Jésus s'adresse à tous. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Cherchez ce texte, il est dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Donc, il s'agit d'une façon et non de degré. Car Dieu n'y dépassera toujours infiniment. Peu importe ce que l'on fait, c'est le cœur qui compte. Dans un petit poème que mon fils m'avait écrit alors qu'il était encore bien jeune. Il commençait à écrire, il avait écrit ça. C'est pas la beauté qui compte, c'est le cœur qui compte. Il avait donc raison. C'est un fait que parfois, on arrive au but, plus sûrement par le grand chemin que par un raccourci. Il y en a qui veulent aller trop vite, se jettent dans des monastères, mais ça va pas. Il y a dans le monde des gens qui sont plus élevés en sainteté que bien des religieux, bien des religieuses. Le Seigneur est libre de conduire ses amis par le chemin que lui-même a choisi. Pour certains, ils les laissent faire des détours, plus ou moins lents. Bien oui, le mariage, l'amour conjugal, l'éducation des enfants, quelle grande œuvre, quelle admirable chose, c'est ériger en sacrement le sacrement du mariage, habiter dans l'amour, le pardon, la joie dans les épreuves, la sérénité dans la douleur, et les grandes joies. Pour d'autres, bien le Seigneur les presse de brûler les étapes, comme pour sœur Gabriella, la vie des cisterciennes. Il en est ainsi pour sœur Gabriella, donc. Même si au moment de la prière, écrit-elle, il nous semble que le Seigneur fasse le sourd, le jour viendra certainement où la prière portera son fruit. Par moments, nous avons l'impression que le Seigneur nous abandonne et nous oublie. C'est au contraire une épreuve de son immense amour. Il veut voir si nous restons fidèles, afin de nous récompenser ensuite plus largement. Dans sa prière du cœur, au jour de sa profession, sœur Gabriella s'inspire très très clairement du fameux acte d'offrande de sainte Thérèse de l'enfant Jésus. Elle écrit « Ô Jésus, je m'offre à toi en union à ton sacrifice. Consume-moi comme une petite hostie d'amour pour ta gloire et le salut des âmes. Père éternel, montrez que votre Fils célèbre ses noces et établissez votre règne dans tous les cœurs. » Sainte Thérèse de Lisieux avait dit, elle, « Ô mon Dieu, je désire vous aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église et sauver les âmes. Je désire être sainte. Je m'offre à votre amour miséricordieux. » Alors pour toutes les deux, sœur Gabriella, la bienheureuse Gabriella, et puis Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux, même pour toutes les deux, c'est la disponibilité totale. La soif, oui, la soif du salut des hommes et des femmes, des vieillards, des enfants, de tout le monde. C'est la première place donnée à l'amour. Alors son offrande à sœur Gabriella s'est faite sans que l'on sache sous quelle forme et à quelle date. Sans doute le jour même et dans l'intime de son cœur. Elle a gardé son secret sur ce point, un secret d'amour uniquement pour la gloire de son Seigneur, qui est son époux. En se livrant à la merci de Dieu, elle n'avait pas, évidemment, la prétention d'offrir un trésor. Elle était bien trop consciente de sa nullité. Pour elle, cette offrande était une manifestation de son amour, oui, son amour, et un appel pour que Dieu déverse son amour en abondance sur tout le monde. Tout le monde. Particulièrement ceux qui sont séparés. Après son offrande, sœur Gabriella continue sa vie coutumière, sans rien laisser deviner au dehors. Elle paraît même encore plus oublieuse d'elle-même et plus heureuse d'être au monastère. Pourtant, une petite douleur s'est fait sentir à l'épaule à la fin de janvier. Quelques jours après l'offrande, puis une fatigue générale, enfin, une petite toux sèche caractéristique. Elle en avait parlé à la mère abbesse qu'elle voulait s'offrir pour l'unité des chrétiens. Que Dieu vienne la chercher. Sœur Gabriella prend conscience que le Seigneur daigne accepter son offrande et qu'il la prépare à la grande rencontre, ce grand jour de la rencontre de Dieu pour l'éternité. Tout d'abord, ses compagnes et ses supérieurs ne se doutent de rien. En février-mars, avec les fièvres du printemps, les grippes habituelles, les craintes de tout sont bien normales chez les religieuses, d'autant plus qu'il n'y avait pas de chauffage. Mais on est à la hauteur de Rome, il y a quand même parfois de la neige. La mère abbesse est bien perplexe. D'où vient cette maladie? Et cette jeune prophète, si vivante et si forte, comment en est-elle arrivée là, elle qui était magnifique de santé? Pourquoi? Alors elle se souvient qu'une religieuse avait demandé discrètement au mois de janvier de s'offrir pour l'unité, mais c'était sœur Gabriella, c'était bien elle. Ben, elle n'avait pas prêté d'attention, elle a avoué plus tard. Sœur Gabriella, depuis que je me suis offerte, je n'ai pas passé un jour sans souffrir. Alors, plus inquiète encore, Mère Pia, l'abbesse, fait de nouveau venir le médecin. Il confirme le diagnostic, c'est la conséquence d'un rhume, c'est tout. Bah, elle ne peut pas être tuberculeuse. Les jours passent, la semaine sainte arrive, sœur Gabriella suit au maximum et avec grand joie tous les exercices. Le vendredi saint, elle est avec ses sœurs à l'église pour les rangements, les nettoyages. Il est prise d'un accès de toux et la mère abbesse, mère Pia, qui est présente, lui jette un regard angoissé. Alors, sœur Gabriella comprend l'interrogation dans le regard de sa mère abbesse. Elle répond par un petit sourire taquin. Mais la mère abbesse va écrire plus tard, « Cette toux me pénétra comme une blessure, une douleur aiguë. Ce fut comme le pressentiment de sa mort. » La valeur de cette âme, la perte pour la communauté, était-ce possible? Un instant, je pensais à lutter avec le Seigneur, à me disputer avec lui, mais en ce jour du vendredi saint, Seigneur, que ta volonté soit faite, la tienne. Mais le cœur brisé, les yeux fermés sur l'avenir, j'ai offert, sœur Gabriella, ce qu'on offre à Dieu ne se perd point. Et nous verrons, dès le jour de Pâques, Mère Pia a convoqué le médecin encore, le sifflement persiste. Puis le lendemain matin, le lundi de Pâques, elle appelle sœur Gabriella, elle avertit qu'il va falloir entrer à l'hôpital pour une radiographie à Rome. Et à cette nouvelle, sœur Gabriella pâlit, elle devient blême, et dans ses yeux se lit l'étonnement, l'effroi, mais Mère Pia tente de la rassurer, en affirmant qu'elle rentrerait le soir même, qu'elle ne restait pas plus de 1 ou 2 jours. Elle ajoute, « Quand on s'est offerte, ma sœur, on doit être prête à tout. » Je m'inspire de ce beau livre du père Bernard Martelet, publié chez Mediapol. Vous pouvez le trouver chez les Filles de Saint-Paul, rue Saint-Denis, au sud de Mont-Royal. Pas loin du métro Mont-Royal, c'est à deux portes. Hein. Alors, quand elle entre à l'hôpital, sœur Maria Gabrielle, à Rome, elle arrive dans la grande salle où un lit lui est assigné, puis elle aperçoit un grand crucifix accroché au mur. Et Jésus est nu. Il a accepté cette humiliation pour nous. Elle n'a même pas apporté son chapelet, puisqu'il faisait partie de son costume, puis elle était habillée en civil. Elle n'a même pas de voile. Elle n'a même pas son bréviaire, on a oublié, puisque c'était rien pour la journée. Mais déjà, la nouvelle arrivée est entourée puis assaillie de questions, et la salle est remplie de poitrinaires, surtout des jeunes, qui sont là depuis 1, 3, 6 et même 8 mois et davantage. Alors le lendemain, elle écrit à sa mère abbesse. Elle avait demandé à la religieuse infirmière de quoi écrire, mais rien n'est venu. Alors elle a tout simplement emprunté tout ce qu'il fallait à une voisine de lit. Elle est vraiment réduite à rien. Elle demande un voile blanc à la mère abbesse, parce qu'elle est autorisée à le porter. Le voile blanc, c'est le voile de celles qui ne sont pas professe perpétuelle, pour toujours, professe solennelle. Elle est autorisée à porter ce voile. Puis elle demande aussi diverses choses indispensables, surtout du papier puis des timbres. Mais sur la date de son retour, elle sait absolument rien. Le médecin a dit, on verra après la radiographie. Elle explique à sa mère abbesse, je suis comme un poisson hors de l'eau. Je suis dans une grande salle pleine de monde. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui crient, qui hurlent et qui font un tapage infernal. Impossible de se recueillir un instant. J'étais à peine arrivé qu'elles sont venues près de moi pour m'entraîner dans leurs cris, dans leur vacarme. Tombé que je suis de ma solitude au milieu de ce monde rempli de tintamarres, je ressens le poids de mon sacrifice. Même la nuit, on entend tousser à droite et à gauche. Les unes se lamentent, d'autres parlent, et ainsi de suite. Sœur Gabriella, après avoir enduré ça pendant des mois, a la joie de revenir à l'abbaye le dimanche avant la Pentecôte, le 29 mai 1938. Il y avait 40 jours, c'est-à-dire un mois et demi, qu'elle y était sortie. Sa joie est grande de se retrouver au milieu de ses sœurs. Cette joie se double de celle de la communauté, spécialement de la mère abbesse et du noviciat. Car elle est toujours au noviciat. Sœur Gabriella va prendre des précautions, elle les prend d'ailleurs. Et même elle les exagère, car elle dit à l'infirmière, ma maladie est mon trésor. Et je ne veux le donner à personne, ce trésor. Elle est un peu taquine. Hein? Elle a une chambre assez spacieuse à l'infirmerie. Elle assiste aux offices au fond de l'église. Et elle peut s'asseoir à volonté, évidemment, elle est faible. Dans la journée, elle fait quand même des petites promenades
dans l'enclos, plus ou moins longue selon le temps. Alors, on la rencontre souvent assise à l'ombre d'un arbre avec un livre ou un travail de broderie, de couture, de tricot. Elle écrit, en terminant, avec un hymne d'action de grâce, « Quand je pense aux tendresses et aux délicatesses dont le Seigneur use à mon égard chaque jour, et de toute manière, mon cœur s'attendrit à une joie profonde, et le bonheur m'envahit. Je dis, mon Dieu, si vous me traitez avec tant de délicatesse sur cette pauvre terre, qu'est-ce que ce sera quand j'irai jouir de vous, là-haut, en paradis? Oh, maman, c'est une lettre à sa mère, maman, mon bonheur est grand, quand je ne puis le comparer à aucun bien, à aucune joie de ce monde. » Alors, durant le mois de janvier, l'année suivante, l'état de santé de Sœur Gabriella demeure stationnaire. L'octave de prière de l'unité revient du 18 au 25 janvier 1939. Ça suscite de nombreuses et ferventes initiatives à travers le monde pour l'unité des chrétiens. Vous avez compris beaucoup durant cette semaine. Je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant de ça. Combien les prières sont ferventes partout dans le monde pour l'unité de tous les chrétiens, plus particulièrement avec nos frères orthodoxes qui sont devenus presque les seuls qui sont nos frères jumeaux. Sœur Gabriella renouvelle son offrande de l'année précédente. Elle prie avec ferveur pour que l'amour du Christ soit un ferment d'union entre les églises et entre les peuples. Et l'avenir de l'Europe est sombre en 1939, évidemment. L'orage va éclater quelques mois plus tard. Et ce sera la guerre mondiale qui va faire des millions de victimes. Et dans un moment de grande souffrance, elle griffonne une prière dont elle ne se souvient plus. Mère Abbesse réussit à la déchiffrer et la recopie. Elle exprime les sentiments intimes de la malade. Voici cette prière. Seigneur Jésus, mon frère et mon époux, je te supplie de m'offrir avec toi dans tous les calices, dans toutes les hosties et dans toutes les messes qui se célèbrent dans le monde. Et je me rends et de me rendre un holocauste digne à présenter à la majesté divine pour sa plus grande gloire. Jésus, que je te glorifie et que tu sois glorifié en moi. Alors on peut craindre dans cette prière qu'il y ait quelque chose comme une teinte de masochisme d'une jeune fille qui croit que Dieu aime la souffrance et qu'il faut s'offrir à lui. Souffrir et mourir pour lui faire plaisir. Mais vous allez voir. Pendant la semaine sainte de cette année 1939, elle s'unit à la communauté, elle médite tout spécialement sur les chapitres de l'évangile de Saint Jean où le Christ parle de l'union. L'union qu'il veut avoir avec ses disciples et de la charité, oui, la charité qui doit faire l'unité entre eux. C'est dans Saint Jean, relisez bien ça, c'est si beau. Du chapitre 14 au chapitre 18, c'est une des plus belles parties de la Bible. Alors la semaine de Pâques est paisible. On veillait pourtant la malade chaque nuit. Cela lui faisait de la peine, parce que c'était une surcharge pour ses sœurs. Et en ces derniers jours, sœur Gabriella a voulu écrire une lettre d'adieu à sa mère. Et en plein accord avec sa mère abbesse, elle préfère que la lettre ne parvienne à Dorgali, en Sardaigne, qui fait partie de l'Italie, comme je vous ai dit au début de l'émission, qu'après sa mort. Sa mère aura ainsi l'impression que sa fille est vivante. Voici cette lettre. « Maman chérie, je vous écris ces lignes pour vous adresser mes dernières pensées. Mon époux divin a renouvelé son invitation et le jour tant désiré approche. Je ne vous dis pas le jour de la mort, mais le jour où, délivré de cette chair de misère, je pourrai enfin passer à la vie attendue, à cette bienheureuse vie, celle du ciel. La séparation d'avec le corps n'est pas une mort, mais un passage à la vraie vie. Réjouissez-vous, maman. Là-haut, il n'y aura plus de clôture. Sans doute, vous ne me verrez pas, mais je pourrai venir vous visiter et vous embrasser à loisir. Je sens grandir toujours plus mon affection pour vous. Soyez tranquille, car de là-haut, je vous serai beaucoup plus utile que je ne le suis ici. Je verrai alors tous vos besoins, et je pourrai intercéder davantage auprès du Seigneur. Ne pleurez pas. Non, ne pleurez pas, maman. Ne faites pas les comédies que l'on fait à Dorgali. Cela me ferait beaucoup de peine. Vous savez qu'en Sardaigne, comme dans le sud de l'Italie, on engage même des pleureuses pour pleurer aux funérailles. Elle lui dit simplement, « Je désire, maman, que le jour même où vous recevrez la nouvelle, vous alliez toutes à la messe et fassiez la communion. Vous prierez ainsi pour moi et vous remercierez le Seigneur des grâces qu'il m'a faites, ainsi que des prédilections qu'il a eues à mon égard. Une fois encore, je demande pardon à tous des offenses que j'ai pu faire. Je vous embrasse très fort dans le cœur de Jésus ainsi que toute la famille. Votre fille toujours, Sœur Marie-Gabriella. » Il n'y a pas de date, évidemment, puisque c'est une lettre qui doit être remise après sa mort. Et comme Thérèse de Lisieux, comme Sainte Thérèse de Lisieux, Sœur Gabriella, bien heureuse aujourd'hui, n'a aucun doute sur l'accueil qui lui est réservé après la mort. Bien oui, l'une et l'autre s'appuient non sur leur mérite, pas du tout, il n'y a aucun orgueil là-dedans, mais sur la fidélité de Dieu. Elles ont confiance en Dieu. Elles savent à qui elles ont donné leur foi. Elles sont certaines de n'être jamais déçues. C'est Sainte Thérèse qui a dit, « Je descendrai, je vais passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Eh bien, Sœur Gabriella assure sa mère qu'elle viendra la visiter et l'embrasser. À plusieurs des novices qui lui confiaient telle ou telle intention, Sœur Gabriella répondit, « Maintenant, je ne puis penser à tout cela. Ma tête n'y est plus. Mais quand je serai là-haut, j'arrangerai tout. » Alors, dans la matinée du 23 avril 1939, le père aumônier est venu lui demander si elle voulait communier. Elle se calma, elle sourit. Cette communion devait être la dernière. Et comme préparation et action de grâce, Mère Pia, la mère abbesse, lui répète, « Comme il est bon, le Seigneur, comme il vous aime. » Alors, Sœur Gabriella est agitée par moments. Les assistants lui suggèrent une bonne pensée ou une oraison jaculatoire, c'est-à-dire un cri comme « Cœur sacré Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. » C'est ça des oraisons jaculatoires. Alors, en entendant ces prières, très simples, qui sont un peu comme des mantras finalement, elle se calme. Quand on lui présente le crucifix, elle le couvre de baisers prolongés. Elle aime vraiment Jésus. Mais vers midi, elle entre plus ou moins dans le coma. À l'heure des vêpres, tout le monde part à l'office. Seule l'infirmière est restée près de la mourante, qui ne tarde pas à entrer en agonie. Dès la fin des vêpres, toute la communauté des trappistines arrive et se met en prière. Nous sommes à Grotta Ferrata, près de Rome. Sœur Gabriella a ouvert les yeux. Elle jette un regard d'étonnement et de joie. Puis, elle ferme les yeux et elle expire. Et chose curieuse, à ce moment, les cloches ont sonné joyeusement, car au lieu du glas qu'on leur avait prescrit, les sœurs ont désobéi. Elles ont sonné à la volée comme pour une fête, oui, des jeunes sœurs qui sonnent les cloches. Et elles étaient tellement confiantes dans la sainteté de leur concert du noviciat qu'elles ont fait sonner les cloches avec enthousiasme. Pense pas qu'elles aient été blâmées pour ça par les supérieures. Et chose étrange, aux cloches du monastère se sont joints les cloches de la paroisse Saint-Joseph. Puis celle de l'autre paroisse, c'était l'heure des vêpres pour les fidèles. Alors toutes les cloches sonnaient, à Grotta Ferrata. Ça carillonnait. Les religieuses chantaient le subvenite, et l'aumônier du monastère, il y encensait le corps de la toute jeune défunte de 25 ans. Il a prié en disant « Venez, saint de Dieu, accourez, ange du Seigneur. » Dites-vous bien que quand vous assistez à la mort de quelqu'un qui meurt après avoir reçu le sacrement des malades et qui meurt avec une certaine confiance, ou peut-être quelques angoisses, dites-vous bien que les anges sont là qui tourbillonnent et les saints sont présents. Dieu est là. Le ciel est là. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes dans le ciel, car nous sommes en Dieu. Et le ciel est en nous, car Dieu est en nous. C'est inséparable de nos êtres, nous ne sommes jamais seuls. Quand la dernière toilette du corps de Sœur Gabriella a été achevée, elle a été portée en grande procession au chœur. C'était le dimanche du bon pasteur. C'est le deuxième dimanche après Pâques. À l'épître de la messe, Saint-Pierre, dans son épître, dans sa lettre qu'il nous a laissée, le premier pape, parle des brebis errantes. Puis à l'évangile, il y a Jésus qui dit « Je suis le bon pasteur ». Qu'est-ce qu'un bon pasteur désire? Évidemment qu'il désire un seul troupeau, un seul pasteur. Et c'était le 23 avril 1939, elle avait donné sa vie pour l'union des orthodoxes, des anglicans, des protestants, des catholiques, afin que nous tous nous formions une seule Église, dans le respect mutuel, dans l'amour et la tendresse. Dans l'Église catholique, déjà, nous sommes 21 Églises différentes. Y avez-vous déjà pensé que nous sommes une Église unie? Quand on parle de l'Église unie, au Canada, on parle de l'Église protestante qui, dans un geste d'affection et de désir de l'unité, en 1925, se sont ralliés les presbytériens, les méthodistes et des congrégationalistes. Mais malheureusement, ça n'a fait qu'une nouvelle Église. Mais c'est devenu l'Église la plus importante au Canada quand même. L'Église unie du Canada. Nous, dans l'Église catholique, la plupart d'entre nous sommes ce qu'on appelle des latins. Mais nous avons comme frères égaux les melkites, les maronites, des russes catholiques qui ont leur paroisse à Montréal. Nous avons des grecs catholiques, des roumains catholiques, qui célèbrent la magnifique liturgie orthodoxe, en mentionnant le nom du pape. Ils sont le signe et le symbole de l'unité future, ce qui les place dans une situation bien difficile. Ils n'ont pas voulu trahir l'orthodoxie. Ils se sentent orthodoxes. Mais ils désirent tellement l'unité qu'ils se sont joints à nous, catholiques. Ils ont une sorte d'autonomie au sein de notre Église, mais ils reconnaissent le pape, qui est leur père commun, lui qui est le vicaire de Jésus-Christ. Et c'est le Christ qui nous unit, beaucoup plus encore que le pape, car c'est le Christ, son cœur, qui nous unit. C'est l'Esprit-Saint qui nous unit, avec tous ceux qui viennent même des Indes, des Syro-Malankars, les Syro-Malabars. Les quantités d'autres églises admirables, les Arméniens catholiques, les Coptes catholiques. Je suis allé dans ces messes, à ces églises. J'aime beaucoup prier avec eux, car ils sont dans la grande souffrance. Ils rêvent toujours de l'unité future, de cette église à laquelle ils appartiennent de cœur, soit l'église copte, l'église arménienne ou d'autres. Sœur Gabriella a offert sa vie pour l'union de toutes ces églises chrétiennes. Quand elle est morte, La mère abbesse a demandé à une religieuse ce qu'elle pensait de cette défunte. Et cette sœur a répondu, « Si la sainteté, ce n'est pas cela, je ne vois pas ce que ça peut être. » Alors à la réunion du chapitre, vous savez, il y a une salle dans les monastères où les moines ou les moniales se réunissent. Il y a un petit siège un peu plus important pour le père abbé ou la mère abbesse. Et cette personne qui a la charge du service complet de toute cette communauté, on appelle ça une supérieure, c'est une charge épouvantable, terrible. Bien, elle prend la parole, et puis mère Pia, au chapitre, a donc fait l'éloge de sœur Gabriella. Elle a dit, elle fut une vraie cistercienne, c'est-à-dire une trappistine. Elle fut une vraie cistercienne, par son silence d'amour. C'est ça qui compte. Sa quête de Dieu, son obéissance et son humilité. Elle a passé souriante, et personne n'a jamais eu à se plaindre d'elle. On ne s'est aperçu de sa valeur qu'au jour où elle est tombée malade. Savez-vous que les protestants, les anglicans en particulier, les orthodoxes, se sont attroupés autour d'elle. Des biographies ont été publiées partout. Dès l'année suivante, sa mort, un monastère anglican était très touché par le geste de sœur Gabriella, un monastère d'anglicans bénédictins. Elle a accordé d'innombrables faveurs, c'est-à-dire Dieu a accordé d'innombrables faveurs par son intercession. Dans les faveurs obtenues, ici ou là, on remarque un charisme particulier chez sœur Gabriella. C'est celui du retour à l'unité et à la paix. Grâce à elle, des communautés troublées, vous savez, retrouvent le calme. La discorde disparaît même des familles quand on l'invoque. L'union et la concorde reviennent là où elles avaient disparu depuis des années. Et des sympathies se manifestent pour l'Église catholique chez nos frères séparés. Leur regard s'ouvre et s'aperçoivent que malgré tous nos défauts, et malgré l'histoire de l'Église catholique étant tachée de bien des misères, nous sommes demeurés fidèles au Christ. Nous essayons d'être de bons chrétiens. Nous avons dans notre Église des saints. Nous avons des endroits sérieux, sincères, où nous vivons comme catholiques un véritable christianisme. Et nos frères séparés se rendent compte de plus en plus que même si nous sommes les plus nombreux dans le christianisme, nous sommes à peu près quoi, les deux tiers de tous les chrétiens de la terre. C'est lourd à porter. Nous sommes une immense église, en grande difficulté en Occident actuellement. Nous sommes une église sincère. Il suffit de lire les beaux textes des papes. Il suffit de lire la véritable histoire des saints de notre église. Comme tout le reste, le rayonnement de cette grande chrétienne, de cette grande catholique, sœur Gabriella, a été discret et délicat. Rien de tapageur et de contraignant. Quand la charité pacifie, et quand l'amour est ardent, toutes les disputes, la zizanie, ça s'en va en fumée. Plusieurs temps, bon bout de temps après sa mort, en 1957, donc près de 18 ans après sa mort, on a retrouvé son corps intact. Alors la communauté a dû quitter Grotta Ferrata pour Vitorchiano, dans un autre diocèse, car Grotta Ferrata était devenue beaucoup trop bruyant près de Rome. On a transporté son corps, mais quand on a ouvert le cercueil, après le transport, il n'était plus conservé. C'est curieux, étrange. On peut invoquer cette bienheureuse Maria Gabriella Sagedu. Je réappelle son nom de famille. Sagedu. S-A G-G H-E D-D-U Sagedou. Curieux nom. Elle est née en Sardaigne, cette grande île près de l'Italie, qui appartient à l'Italie. Je vous signale que l'unité des chrétiens ne peut se faire qu'autour d'une parole qui a été prononcée par Jésus, qui est cette parole qui a été dite à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Quand on se réfère à ce Pierre, c'est celui qui a dit « Seigneur Jésus, tu sais bien que je t'aime. » Pierre était rempli d'amour pour Jésus. Pierre est un humble pécheur. Il est à la fois un pécheur et un pécheur, hein, il a trahi Jésus. Mais il y est revenu, il l'a servi de tout son être, il est mort crucifié la tête en bas, à Rome. Et sur son tombeau, le pape actuel célèbre la messe. Car son tombeau est exactement sous l'autel central de Saint-Pierre de Rome. Et c'est autour du pape qui est un père. Pape veut dire papa. Pape veut dire père. Pape veut dire serviteur des serviteurs du Christ. C'est tout. Le pape a dit la bienheureuse Marie Gabriella, qui réunit dans son beau nom celui de l'ange de l'annonce et celui de la Vierge de l'écoute, devient un signe des temps, un modèle de cet écuménisme spirituel auquel nous a invité le Concile. Son offrande s'élève à la hauteur d'un événement ecclésial de grande portée. Ici se termine cette émission sur Sœur Maria Gabriella Sagedou.